Before we start the afternoon session, the second paper of Mr. Donato, we have time for one more question, which is coming from Dr. Lacan, and Mr. Goldman needs to reply, he will do so.
En attendant, tout à l'heure, Monsieur Goldman, j'ai mesuré la difficulté qu'il y aura à faire entendre de vous ce que, comme ça, à la mesure de notre réunion, j'ai commencé d'essayer de mettre ce matin debout avec quelqu'un qui a la bonté de m'aider, qui est actuellement mon traducteur. En effet, Monsieur Goldman est bien connu de vous pour déjà, depuis quelques mois, répandre ici son enseignement. On ne peut pas en dire autant, assurément, de ce que je peux avoir à apporter ici. J'ai essayé pour demain d'en donner quelque chose qui en représente le premier tranchant. Comme c'est quelque chose que j'édifie depuis environ 15 ans, vous imaginez que ça ne pourra pas être quelque chose d'exhaustif. Néanmoins, pour me faciliter la tâche et préparer votre oreille, je voudrais dire ceci, que concernant le sujet, puisque j'ai déjà poussé hier en avant ce terme, et que même M. Derrida, ici présent, à l'heure du dîner, va demander « Pourquoi appelez-vous sujet précisément ceci qui est l'inconscient ? Qu'est-ce que le sujet a à y faire ?» Je dirais qu'en tout cas, il n'a rien à y faire qui concerne quoi que ce soit dont ce dont M. Goldman a parlé sous le nom de sujet. C'est une question, bien sûr, qui ne concerne que les termes. M. Goldman peut bien appeler sujet ce qu'il entend par sujet. Néanmoins, ce que je voudrais pointer, c'est ce qui caractérise le sujet de M. Goldman, qui est d'ailleurs fort proche du sujet qui est reçu jusqu'ici par tout le monde. C'est une fonction d'unité, au sens où l'unité est unifiante. Le sujet est le sujet de la connaissance, c'est-à-dire le support, prétendu ou pas, qu'importe, de tout un monde d'objets. De même, M. Goldman transporte cette fonction d'unité dans d'autres champs que de la connaissance, celui de l'action, par exemple, et c'est au nom de ceci qu'il appelle Jean et Jacques transportant une table, un seul et même sujet. C'est dans la mesure où ils sont unis dans cette action commune. Néanmoins, ce qui m'a suggéré de parler est précisément qu'il m'est arrivé cette expérience, non pas de transporter une table, je m'appelle Jacques, avec Jean, mais pour des raisons que nous passerons, qui sont simplement des raisons de fatigue, ce n'est pas la vérité, la bonne volonté, vous allez voir, qui me manquait pour la transporter. Néanmoins, les choses se sont passées autrement. J'étais donc à un hôtel dont je tairai le nom, mais vous devez connaître tous, et j'ai eu envie de faire mettre une table qui était face à un mur, devant la fenêtre, au fin de travailler à votre usage. Il y avait d'autre part à cette même place quelque chose qui faisait obstacle, à savoir sur la droite, une commode qui eût empêché de mettre cette table devant la fenêtre. J'ai donc décroché le téléphone et demandé que quelqu'un vienne m'aider. il a surgi un personnage fort digne, à cheveux blancs, qui portait sur son uniforme l'inscription qui, pour moi, n'a pas encore pris un sens bien précis, mais les choses ont changé depuis. Bellman. À ce nom, qui veut dire sans doute bel homme, je n'ai pas immédiatement prêté attention. Et j'ai dit au Bellman, dans mon anglais, dont vous pourrez juger demain l'imperfection, mais enfin, qui est tout de même suffisant pour transmettre une prière, je lui ai dit que ce que je désirais était de mettre cette table devant la fenêtre et la commode à la place précédente de la table. Tous ceux qui, ici, appartiennent à la communauté américaine, naturellement, ne seront pas surpris de ce que j'ai obtenu comme réponse, un simple geste. Voyons, je suis le Bellman. Pour qui me prenez-vous? C'est l'affaire de la housekeeper. Je lui ai dit, qu'à ceci ne tienne, lui ai-je dit dans mon anglais, tout ce que je désire, c'est que le travail s'opère. Je vous en prie, que ce ne soit pas trop tard, avisez-vous d'avertir la housekeeper. Je dois dire que, exceptionnellement pour le service du dit hôtel, j'ai eu assez vite la housekeeper. Moyennant quoi, j'ai eu droit, aussi, dans pas un trop long temps, car j'ai su m'expliquer sur le sujet de mon désir, droit à deux noirs qui sont arrivés et qui ont prêté apparemment peu d'attention à ma prière. Ils semblaient même avoir l'oreille tournée ailleurs, néanmoins, qui ont exécuté ce que je leur ai demandé, je dirais presque parfaitement, car il y restait quelques petites imperfections, je dirais tellement précises, qu'elles ne peuvent pas ne pas avoir été faites exprès. Je demanderai où est le sujet de cette petite histoire. À une première approximation, mais vous verrez vite pourquoi je ne m'y arrête pas, c'est évidemment moi-même. À savoir ce par quoi j'ai fait défaut à toute la situation. Car l'important dans cette histoire n'est évidemment pas le fait que j'étais celui qui portait le commandement et qui, somme toute, ait obtenu à la fin satisfaction, mais le mode sous lequel j'ai manqué à tout en ne demandant pas d'abord à qui il fallait que je m'adresse, vu la hiérarchie hôtelière régnante, pour avoir ce service sans trop de délai. Néanmoins, ce me sera une occasion de marquer la différence qu'il y a entre la subjectivité et le sujet. Assurément, je pourrais être le sujet s'il ne s'agissait que de ce manque. Je suis la subjectivité pour autant que, incontestablement, j'ai marqué au long de toute cette histoire quelque impatience. Par contre, ce qui me semble en être le sujet est proprement quelque chose qui ne me semble ni intra, ni extra ou intersubjectif. Le sujet de cette histoire me semble, et comprenne bien ce que je vais dire, je le dis sans aucune espèce d'intention qu'on pourrait appeler en anglais dérogatoire. Je le dis avec justement la plus grande attention à la portée de ce que je vais avancer. C'est quelle sorte de sujet caractérise un style de société où vous avez en principe tout le monde, aussi prêt à vous aider que le comporte la question « May I help you ?» qui est celle que vous propose d'emblée votre voisin dès que vous prenez l'avion, pour peu que vous ayez pris un avion d'une société américaine et que votre voisin soit américain. Le mien, quand je suis monté à Paris la dernière fois pour me diriger vers New York, littéralement, pendant tout le trajet, m'a donné, j'avais l'air très fatigué pour des raisons intimes, m'a donné la becquée. Il prenait des petits morceaux de viande dans son propre plat et me les glissait entre les lèvres. Quelle est cette sorte de sujet donc, qui est fondé sur ce premier principe et qui fait que d'autre part, il est proprement impossible de vous faire servir. Telle est la question que je pose et dont je considère à propos de cette histoire que c'est là, au niveau de ce gap, au niveau de ce quelque chose qui ne colle ni dans l'intra, ni dans l'inter, ni dans l'extra, qu'est posée à propos de cette histoire la question du sujet.
Try to make it fast. While listening to Mr. Goldman's question, I measure the difficulty I'll have in making myself understood about what I've started working upon this morning. Mr. Goldman is well known to have started his teaching around here. It's not my case, and it would be more difficult. At first, what I'm going to say has been written about 15 years ago, hence it's not exhaustive. But in order to facilitate my task and prepare your ear, I would like to say that the notion, I would like to say something about the notion of the subject. It has nothing to do with what Mr. Goldman calls subject. Of course, he is free to use, to mean whatever he pleases by using the term. We just have to agree on the terms. For him, the subject is the function of a unity, a subject of knowledge, which supports, not support, carries, a whole world of objects. He carries this the function of unity into other fields, for instance, in action. That is, in the case of the table, where you have one and the same subject united in a common action. Well, this little story happened to me, not to carry a table. My name is Jack with Jean, but things happened otherwise. I was in a hotel, I won't mention the name, and I felt like moving my table, which was in front of the wall, to have it moved in front of the window, where and there was a chest of drawers in front of the window. So I called down at the hotel to ask for someone to come and help me, and then popped up a very dignified character with white hair, with a uniform, on which was written Bellman on the label. And I thought probably it means a beautiful man. But in my imperfect English, I said that what I wanted was to put the table in front of the window and the chest of drawers at the place of the table. He was quite surprised, a simple gesture, and he said, I'm the bellman. For whom do you take me? It's the housekeeper's job. Who cares, said I. I just wish for the work to be done and tell the housekeeper. So she came pretty fast, and apparently there was little attention paid to my prayer, to my demand. No, it was a nicer word than demand. But at least they did it, they achieved it almost perfectly. However, there were some imperfections so precise that probably they must have been done on purpose. Where is the subject of this small story? At first, obviously, it might appear it's me. That is, in my lack in the situation, in my lacking something in the situation. It's important that in order to give an order, the order was all right, but the mode of my asking, the way of my asking, was not proper. Because I should, of course, ask for the right person at first. So that shows the difference between subjectivity and subject. I could be the subject if it were only a matter of this lack. But there was some subjectivity involved because I couldn't hide some impatience. So the subject is neither intra nor extra nor intersubjective. This is not where you find it, him. The subject of this story seems to me, and this is a most important point, what kind of subject does characterize the style in a particular society where, in principle, everyone is willing and ready to help you? I mean, the question, may I help you? I recall my American man sitting next to me in the plane who literally fed me in the plane, putting food into my teeth. I was tired. So on the other hand, it's practically impossible to have your orders answered.
Je voudrais d'abord, comme l'a dit le docteur Lacan lui-même, dire qu'il se peut, nous entendrons le docteur Lacan, je vais essayer, ses ouvrages paraissent, de me documenter mieux quand ils paraîtront sur les écrits, mais il se peut que nous parlions d'autre chose sur le même terme. Alors là, c'est une question de terminologie, ce n'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter, mais à la problématique. Cette problématique, nous l'entendrons demain ou après-demain et nous essaierons d'en parler. Ceci dit, donc, sans essayer de discuter qu'est-ce qu'il faut appeler sujet, parce que ce serait une discussion stérile, je voudrais simplement faire deux choses dans une brève réponse. Premièrement, remerciant le docteur Lacan de sa remarque, ajouter quelques très brefs mots sur des points que j'ai oubliés et qui sont importants, et par la suite répondre au niveau de son histoire. Je voudrais d'abord dire que, bien entendu, j'ai laissé beaucoup de choses d'à côté dans mon papier et encore plus dans ma conférence, mais il n'est pas dit que le sujet transindividuel dont je parle est tout simplement l'unité. Il constitue les conditions dans lesquelles l'action peut se faire. Et cela implique, Dieu sait si mes autres livres l'ont dit assez souvent, parfois des oppositions très strictes à l'intérieur, très fortes à l'intérieur de l'unité. Il y a eu un moment où le développement technique de l'Europe se faisait ensemble par un groupe social qui l'acceptait, avec Marx l'a analysé d'une manière assez remarquable, avec une terrible exploitation des prolétariats et des couches pauvres, précisément parce que c'était la seule manière efficace de le faire et que, n'étant pas assez forte pour l'empêcher, finalement elle acceptait à l'intérieur d'une opposition et d'une hostilité extrême. Cela n'empêche qu'il y avait à l'intérieur de cette hostilité une action commune de cette société qui constituait la technique. Enfin, c'est toute l'analyse du manifeste communiste et de toute une série d'ouvrages marxistes sur la naissance de la technique moderne. Alors, si je n'ai pas assez insisté sur le fait que, en faisant quelque chose, des hiérarchisations se formulent comme optimales, comme rationnelles, qui impliquent des tensions et qui s'adaptent par la suite et qui se transforment, et se transforment sur des modes qui ne sont pas toujours aussi simples, c'est évident. Une lacune, mais dans une heure, on ne peut dire que ce que le temps permet, et il faut se référer à beaucoup d'autres problèmes. Je remercie donc le docteur Lacan de m'avoir donné l'occasion d'éliminer cela. Alors, ajouter. Bon, alors, maintenant, la question qui se pose, c'est quel est le sujet de l'action en général dans la création culturelle d'abord et dans l'exemple du docteur Lacan. Et là, je remercie de nouveau le docteur Lacan de me permettre d'aborder un problème extrêmement important de recherche. Quand je veux étudier un comportement, il faut d'abord un morceau de comportement, un rêve, un texte, une histoire comme celle annoncée. Il faut d'abord, pour que je sache si je la peux, dans quelle mesure elle est possible pour la rendre accessible à la recherche scientifique, l'insérer à un niveau cohérent, là où elle constitue une structure, et je ne sais pas d'avance où c'est. C'est un problème de tâtonnement, c'est un problème de recherche. En littérature, je m'excuse de me référer, mais c'est là aussi et quelque chose que j'aurais dû ajouter, et je voudrais l'ajouter maintenant. En littérature, en général, on arrive à une œuvre, surtout quand le succès a indiqué qu'elle représente, du point de vue humain, quelque chose de positif. Alors, il s'agit par la suite, par rapport à cet objet, d'établir le sujet. Et il est important de savoir que, par exemple, pour les ouvrages littéraires, ça ne peut jamais être la nation. Ce ne sont pas les Français, l'unité, par exemple, la société française, qui a pu créer Corneille, Racine et Molière, pour la simple raison que connaissent Racine et Molière sont des Français et qu'ils ne peuvent avoir en commun. Dans la mesure où ils sont français, la société française ne peut rendre compte de ce qu'ils ont en commun. Or, étant donné que Racine, Corneille et Molière sont des œuvres différentes, où beaucoup de choses sont vues dans une perspective différente, ce sont des groupes de la société française qui constitueront le sujet de l'œuvre, et ce n'est seulement que pour les critères en commun que j'aurai la France. Alors, revenons à votre problème. Là, je vous dis comment j'essaierai, moi, d'établir le sujet. Je constaterai d'abord, je ne discute pas les faits, je connais l'Amérique seulement depuis 15 jours, je suis là depuis 15 jours et pas de plusieurs mois, et je n'ai pas été dans un hôtel où un pareil événement se serait produit, quoique j'ai eu des choses semblables, je constate les faits tels que vous les décrivez, et j'admets que la description est réelle et que réellement les imperfections étaient voulues. Alors, je me demande d'abord où est-ce que des faits analogues se produisent. Est-ce que c'est l'Amérique? Ou est-ce que c'est peut-être un certain secteur de l'Amérique? Et je cherche d'autres comportements qui, entrent en liaison, en une liaison de cohérence, en une liaison d'homologie, avec ces comportements. Aussi longtemps jusqu'à ce que j'arrive à une structure significative dans laquelle je comprends quel est le sens de ces comportements. Et alors je me demande, en regardant le secteur que j'ai dessiné où ces comportements se jouent, j'essaie de trouver un groupe pour lequel ce comportement est significatif, s'explique par sa situation, et s'explique par sa genèse et par son histoire. Et ensuite, j'arriverai à dire, il y a aux États-Unis un groupe plus ou moins vaste, peut-être les États-Unis entiers, peut-être un groupe partiel, qui a une attitude toujours serviable devant le client qu'elle rencontre, ou éventuellement le semblable, et qui en même temps demande une certaine hiérarchie et accorde beaucoup d'importance à une hiérarchie, et j'essaierai d'expliquer pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles les structures mentales se sont faites de telle manière, les comportements se sont établis de telle manière, et quelle était la raison pour laquelle elles se sont établies, la raison significative. Et ensuite, ce groupe, je vais le dessiner comme le sujet. Mais bien entendu, il est impossible de vous répondre maintenant quel est le sujet, parce que jamais, quand il s'agit de savoir quel est le sujet transindividuel, qui est à l'origine de Phèdre, ou à l'origine de Corneille, ou à l'origine de ce comportement, il faut d'abord une recherche positive assez longue, contrôlable empiriquement, pour pouvoir dessiner le sujet. Mais je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de préciser comment je procéderai.
Okay, well, at first, let me say that it may be quite true that we're not speaking about the same things while using the same term, but this is not essential. What is essential? Is a problematic, and I'll have to make two points. First, I didn't say that the trans-individual subject was a unity. What the essential point is that there's a common action, and that there might be oppositions within a unit. Now, the second point, what's the subject of the action in the example of your story? First, in order to understand a behavior, one has to place it within, to organize it into a coherent level. I don't know at first, a priori, where that level is going to be. But in literature, our problem is to establish the subject in relation to the object being the work which has survived. But it can never be the whole nation in the case of literary work. If we take Racine, Corneille, and Molière, it's not because they're all French that this will be sufficient to account for their works which are different. Their perspective is related to particular groups. As for your little story, I do not argue about the facts. I've had similar things in hotels. I'll agree that those slight imperfections may have been done on purpose. But first, I would ask a question like, where did those facts take place? Is it in the whole United States or only in a particular area of the United States? And so forth. In what group does this behavior mean something? It might be in the whole country. And you'd find aspects like they're always helpful and at the same time quite conscious of hierarchy. Why? That's a problem. Then this group, this whole group, is going to become the subject, which, of course, at first when analyzing this whole situation, I cannot tell who the subject is.
I think we can pass now to the second paper, Modèle linguistique et langage critique, which will be read by Mr. Eugenio Donato, who is well known to most people here as a former student and presently an esteemed colleague in the university, and I think known to almost everybody as one of the leading organizers of this convention. Virginia.
Il y a déjà quelque temps que la réflexion ayant abandonné les hauteurs de la philosophie a pris les avenues concrètes de l'anthropologie, de la sociologie et de la psychanalyse. Les œuvres d'un Lévi-Strauss ou d'un Lacan jouent aujourd'hui le rôle qu'avaient joué jadis celles de Sartre et de Merleau-Ponty, et c'est vers elles qu'une discipline périphérique, telle que la critique littéraire, périphérique pour avoir trop longtemps confondu le confort universitaire avec le travail de la pensée, se tourne à la recherche d'un fondement méthodologique, comme elle l'avait fait naguère d'ailleurs avec la phénoménologie et l'existentialisme. Cette soudaine éminence de disciplines qui, encore, n'était valorisée qu'en fonction des domaines particuliers qu'elles étaient supposées étudier, a rendu courante l'expression « science de l'homme ». À savoir si cette expression est adéquate au mouvement de leur projet et si on peut parler des sciences de l'homme comme on parle des sciences de la nature, soulève un problème que je laisserai en gros de côté. Prenons toutefois cette expression comme signe d'une préoccupation pour l'unité des disciplines, mettant en cause le phénomène humain à travers les langages particuliers qu'elles emploient à le circonscrire, et indépendamment de leur méthodologie particulière, qui, elles, doivent s'assujettir aux découpages individuels. Certes, ces découpages ne peuvent être indépendants des objets qu'elles dessinent, puisqu'en fin de compte, elles ne sont que la concrétisation de la distance de l'observateur à son objet, et donc plus précisément de l'observateur à lui-même. Si le parallèle avec les sciences naturelles est significatif, c'est précisément dans cette fonction première du langage que chaque science met en jeu pour constituer son objet. Le temps où l'on pensait pouvoir définir une discipline particulière comme fonction d'un objet donné est révolu, car pour employer une formule déjà vieille, ce qui aujourd'hui reste au centre de nos préoccupations, ce n'est pas de quoi parler, mais comment en parler. Il pourrait paraître surprenant qu'en parlant d'anthropologie et de psychanalyse, je n'ai pas mentionné la linguistique, car en fait, la linguistique structurale, et plus précisément la phonétique structurale, a joué et joue encore la fonction de discipline pilote. Et tout le monde est unanime à reconnaître la dette que nous devons tous à Saussure pour son interprétation du signe linguistique en grand S sur petit s, et à tous les développements qui ont systématiquement exploité les intuitions du fondateur de la linguistique moderne. Mais la linguistique, par le fait même qu'elle a joué le rôle de modèle, occupe une place particulière dans sa relation aux autres disciplines et n'est pas sans poser certains problèmes, en particulier celui de savoir si la linguistique a un privilège particulier qui confère à ces modèles une valeur première, ou bien si elle n'est elle-même qu'un aspect particulier d'une sémiologie plus générale, ayant certes progressé plus vite, mais nullement privilégiée par rapport à l'anthropologie ou la psychanalyse. L'avènement d'un style de pensée nous fait souvent oublier la question précise à laquelle elle répond. Ce style tend à oublier son passé et à faire peu de compte du fait que son avènement même représente une réponse aux questions portées au premier plan par ceux qui l'avaient précédé, et que les nouvelles avenues qu'il inaugure étaient prédéterminées par les impasses de ses prédécesseurs immédiats. Nous sommes capables aujourd'hui d'aller de l'avant sans Sartre et Merleau-Ponty. Toutefois, je crois que sans eux, il est impossible de comprendre le succès fulgurant du structuralisme sous toutes ses formes, génétiques, formalistes ou psychanalytiques. Ceci n'est pas pour diminuer les mérites de ceux qui ont été les principaux responsables de cette transformation. Mais si Lévi-Strauss dessinait déjà les grandes lignes de son entreprise dès 1945, et si pour aller plus loin, en 1932, dans un livre intitulé « De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité », on pouvait déjà trouver non seulement l'essence de ce qui sera plus tard la phénoménologie de la perception, mais aussi la critique de ses limites, il reste aussi vrai que dans la période de l'après-guerre, ne parlons pas de 1932, personne n'était encore prêt pour entendre ce qui se disait. Mais revenons brièvement à Sartre, très brièvement à Sartre et à Merleau-Ponty. Le mérite et la grandeur de leur œuvre résidera probablement dans ce qu'ils aient réussi à dissoudre le projet originel de la phénoménologie, en le menant à sa conclusion logique et, pour ainsi dire, en le dissolvant de l'intérieur. Car pour être plus précis, étant parti du contexte philosophique du cogito husserlien, ils ont réussi à montrer que ce cogito ne peut être fondé indépendamment d'une intersubjectivité première. Pour en définir la matrice et aller plus loin dans cette direction, il leur aurait fallu tout un jeu de catégories qui auraient mis en question les fondements mêmes du mouvement de leur pensée. Merleau-Ponty était arrivé à voir dans la notion même de cogito la comédie solipsiste d'un sujet pris dans le filet de ses relations intersubjectives qui le constituent originellement comme sujet. Pour nous, aujourd'hui habitués comme nous sommes à accepter la primauté du langage dans la constitution même de la notion du sujet, les pages où Merleau-Ponty avait prévu que c'était dans et par le langage que l'individu s'inscrivait dans ses relations au monde et les articulait sur la problématique du sens, gardent encore un intérêt qui dépasse celui anecdotique de la recherche de possibles précurseurs. Nous pourrions nous demander ce qui l'a empêché d'aller plus loin. Ce n'était certainement pas pour n'avoir pas connu les travaux de Saussure et de la linguistique moderne, mais peut-être plutôt parce qu'il s'était acharné à maintenir un privilège particulier pour cette conscience qu'il avait héritée de la phénoménologie. Il nous est possible, je suis obligé de sauter et d'aller vite, il nous est possible de voir à partir de son expérience que l'introduction du modèle linguistique à l'intérieur du problème du langage correspond à la possibilité de traiter d'un sujet indépendamment du niveau auquel il prend conscience de lui-même en tant que sujet. Le cas de Sartre est différent, puisqu'il paraît dès le début un sujet engagé dans une lutte à mort avec l'autre. Et pourtant, cette intersubjectivité d'un jeu et d'un autre, dédoublée dans leur fonction de sujet et d'objet, est trop simple dans la rigidité de sa symétrie. Dans cette perspective dualiste, il y avait toujours deux positions antithétiques, l'autre au point de vue du sujet et le sujet au point de vue de l'autre, qui n'arrivaient jamais à se dépasser dans une synthèse cohérente. Nous pouvons voir qu'avec Sartre aussi, ce qui faisait problème était l'unité monolithique du sujet emprisonnée dans l'illusion de sa clairvoyance. Comme le dira Lacan, ce qui manquait à Sartre, c'était la notion de fantasme. D'où, après Sartre et Merleau-Ponty, premièrement, la nécessité d'un système capable de traiter du sujet indépendamment du cogito et de la conscience. Deuxièmement, la nécessité d'un système capable de tenir compte du sujet comme terme de la fonction duelle qui le relie à l'autre. Il y a, bien sûr, ceux qui, au nom d'une fidélité véritable ou illusoire à Sartre, voudraient maintenir l'autonomie et l'indépendance du cogito. On comprendra mieux le sens de la démarche de Sartre et Merleau-Ponty si on pense à certaines tentatives d'un cogito indépendant de nôtre qui viendrait à gâcher une danse devant le miroir avec un partenaire imaginaire malheureusement impossible à saisir. Entreprise qui n'arrive qu'à saisir un cogito aléatoire qu'à partir des termes disparates d'une série morcelée. Par exemple, quand dans une lecture phénoménologique de Bachelard, on a pu parler de cogito, des oiseaux, des arbres, etc. C'était donc en 1945 que Lévi-Strauss, dans un article intitulé « L'analyse structurale en linguistique et en anthropologie », proposait l'emploi des modèles empruntés à la phonétique structurale pour décrire les comportements humains en général et les structures de parenté en particulier. Cet article contenait les grandes lignes de son développement, des grandes lignes du développement de cette pensée qui va linéaire dans son mouvement des structures élémentaires de la parenté au cru et recuit, à l'exception d'une mineure mais importante parenthèse dont nous parlerons dans un instant. Le problème pour l'ethnologue désiré d'employer les modèles linguistiques se présentait sous un aspect double. D'un côté, l'application de la logarithme dans Saussure s'était servie pour représenter le signe linguistique au phénomène culturel, et de l'autre côté, le problème de la translation du modèle phonétique. Mais si ces deux problèmes ne sont pas mutuellement indépendants, ils soulèvent à leur tour deux problèmes distincts. A. Quand la formule saussurienne est transposée à un domaine non linguistique, est-ce que la barre qui sépare le grand S du petit S peut maintenir son caractère absolu? B. Dans quelle mesure le traitement d'un terme de parenté ou d'un fragment de mythe comme phonème réussit à maintenir l'intégrité des relations qui définissent le processus de leur économie? Inutile de dire qu'en soulevant ces problèmes, ce n'est pas que nous voulions mettre en cause la validité de l'entreprise de Lévi-Strauss, mais amener la question de la relation de l'anthropologie structurale à la psychanalyse. La dimension phonétique du langage est indépendante de ce dernier. Les deux ordres qui les couvrent restent dans une relation d'indépendance mutuelle. À avoir lu les classiques de la phonétique moderne, on ne parle ni mieux ni plus mal, ni enfin d'une façon différente. Un phonème, de par sa nature, ne peut pas exister dans une relation de signes et ne tombe donc pas dans la division du signifiant et du signifié, mais n'en est qu'une conséquence qui correspond à un certain découpage de ce dernier, du signifiant. Peut-on dire la même chose des termes de parenté? La question est rhétorique puisque la réponse n'en est que trop claire. Que père, mère, frère, sœur puissent se combiner dans un certain ordre, je le veux bien. Mais peut-on d'abord considérer ces termes indépendamment du sujet qui y accède? car je ne sais peut-être pas ce que je fais en me mariant et en faisant des enfants, mais encore faut-il que je sache quelque chose pour que je les fasse ou veuille les faire. Les anthropologues désignent le terme central des systèmes de parenté par « ego ». Qu'on traduit cet « ego » par « moi » ou « je », et on voit déjà à partir d'un certain contexte toute l'ambiguïté du problème. Non pas que nous proposions un nouveau sujet, mais les termes de parenté existant en relation de signes demandent la présence de l'imaginaire qui la maintient comme telle par rapport au symbolique. Imaginaire par où passe la méconnaissance du sujet, méconnaissance nécessaire à la totalisation du système qu'on se proposait d'étudier en premier lieu. De l'importance de cet imaginaire se souviendront ceux qui ont vu jamais le dimanche, quand le brave boy scout recueille un coup de poing dans la figure, lorsque pour l'édification du crétois, il lui suggère que son amour des prostituées n'exprime rien d'autre que la haine de sa mère. Traiter donc des termes de parenté comme la linguistique traite les phonèmes correspond à l'introduction d'un découpage méthodologique. Pourtant, l'ordre qui en découle doit être maintenu à un niveau indépendant de celui qui la vit ou qui la pense, ce qui revient d'ailleurs à postuler le caractère absolu de la barre saussurienne. Pour surmonter cette difficulté méthodologique, Lévi-Strauss forge le concept d'un inconscient collectif. Cette catégorie, pour n'avoir rien à faire avec l'inconscient psychanalytique, n'est pas gratuite, mais correspond à une rigoureuse nécessité méthodologique, un peu comme le neutrino avait été postulé pour le besoin des équations. De cette façon, Lévi-Strauss est capable de développer un système où le sujet a valeur zéro, ou plus exactement, il correspond à un des éléments d'un ensemble dont il s'agit de dégager les fonctions qui en gouvernent l'ordre. Ceci, nous le répétons, d'une façon totalement indépendante de l'individu qui accède à cette structure. Le sujet peut avoir accès à la connaissance de l'ordre qui le gouverne, mais en aucune façon cette connaissance modifie l'ordre qui le gouverne. D'où on peut voir que cette précaution méthodologique est aussi une nécessité épistémologique. Lévi-Strauss n'a pas toujours été rigoureux dans sa démarche. Il existe un article qui, entre parenthèses, a dû avoir pour lui une importance particulière puisqu'il l'a publié trois fois, intitulé « Structure et dialectique », dans lequel il discute de la relation du mythe et du rituel. L'importance capitale de cet article aurait peut-être passé inaperçue, du moins en non-initié, si ce n'était pour une longue intervention de Lacan à l'occasion de la présentation de cet article à la Société française de philosophie. Après avoir rendu hommage à tout ce que Lévi-Strauss avait apporté de neuf jusqu'à là, il faisait remarquer qu'en parlant de la relation du mythe et du rituel, il introduisait quelque chose qui était resté jusqu'à là absent de son œuvre, l'imaginaire. Ajoutant qu'à l'exception de deux autres articles, « Le sorcier et la magie » et « L'efficacité symbolique » où ce problème se pose, Lévi-Strauss a systématiquement évité toute analyse qui toucherait à cette catégorie et, si elle n'invalide pas son système, du moins mettait en cause sa formulation. Essayons de reprendre sous une forme différente ce que nous avons dit. Les pronoms personnels constituent une catégorie linguistique spéciale puisque vide, il n'acquiert de sens qu'investi d'un faisceau de relations qui les relie aux autres membres du discours. Il est donc possible de caractériser un système à partir des pronoms qu'il met en jeu en fonction des relations qu'il définit. Je, par excellence, pronom personnel d'une philosophie qui va du « je pense donc je suis » à l'ego transcendantal de la phénoménologie, toujours postulé identique à lui-même dans les deux termes de son énonciation. Toutefois, comme Bénéviste l'a montré, l'emploi de ce pronom dédouble le sujet parlant à travers son accession au langage qui lui préexiste. Je cite « je est l'individu qui énonce la présente instance du discours contenant l'instance linguistique « je ». Prenons toutefois garde à la ruse du linguiste, car l'identification du sujet parlant et du sujet parlé ne va pas nécessairement de soi. Cette identification est bien entendu nécessaire pour que le langage puisse acquérir sa dimension de communication. Pour citer de nouveau Bénéviste, si chaque locuteur peut, pour exprimer le sentiment qu'il a de sa subjectivité irréductible, disposer d'un indicatif distinct au sens où chaque station radiophonique émettrice possède un indicatif propre, il y aurait pratiquement autant de langues que d'individus et la communication deviendrait strictement impossible. Mais reposons la question. Quelle est la relation en dehors de la communication du sujet parlant au sujet parlé? Disons pour l'instant que le sujet parlé accède à la conscience de son élocution à travers l'imaginaire que lui offre l'image médiatisée de son dédoublement. Car si la communication, de par ses besoins, nous donne l'impression d'un sujet absolu et objectifiable, il n'en reste pas moins vrai que cette simplification n'est possible qu'à partir d'un dédoublement que la psychanalyse nous a appris à reconnaître à travers les failles de notre discours. Tu, Prenons symétrique par rapport au jeu, nous n'en dirons pas grand-chose, excepté qu'il est plus facilement maniable sous la forme dédoublée de l'autre garant, de l'autre grand A garant du code et de l'autre partenaire explicite ou implicite de mon discours. Il, non personne, pour citer de nouveau Bénéviste, représente en fait le membre non marqué de la corrélation de personnes, pronom par excellence de la science sous la forme impersonnelle de on, étant donné A, on peut prouver que, etc. C'est sous le signe de ce pronom que nous voyons la fonction sujet dans le système de Lévi-Strauss, car du point de vue référentiel, on peut dire que l'application des modèles phonétiques fait correspondre dans une relation d'équivalence l'énoncé sur le sujet et l'énoncé sur l'objet, ce qui revient à structurer l'ensemble par rapport au pronom « on », puisque la distance entre le « je » qui parle et le « je » de qui il est parlé est abolie, puisque le sauvage peut devenir son propre ethnologue, et en devenant son propre ethnologue, ça ne change absolument rien à l'histoire. B, la distance entre le sujet qui parle et le sujet à qui il est parlé est abolie, puisque l'ethnologue peut s'identifier au sauvage, court-circuitant les deux questions qui en fait n'en font qu'une, d'où parle-t-on et qui parle à qui. En fait, si nous devons chercher la façon la plus cohérente d'articuler le double sujet dans sa relation à l'autre, nous serons renvoyés au diagramme L de Lacan, où nous trouverons que le circuit qui mène du jeu symbolique au moi passe nécessairement à travers l'autre, support de ce moi à travers l'axe imaginaire, moi en relation avec l'autre, soutenant lui sa relation dédoublée à l'autre, grand A, à travers le même axe imaginaire. À partir de cette matrice différentielle, il est facile de voir ce que nous propose Lévi-Strauss, car il suffit de réduire cet axe imaginaire à zéro pour voir que le sujet symbolique est sur la même ligne que l'autre. Sur l'autre petit a, pendant que l'autre petit a et le moi sont confondus en un même point. Et ici, j'avais fait un développement sur le « nous », je le dis à Goldman, le « nous », pour moi, reste un pronom asymétrique dans son élocution. Mais en fait, ceci, on en a déjà discuté, donc je passe. Dire aujourd'hui d'une structure qu'elle se définit par l'ensemble des fonctions qui mettent en relation ces éléments, c'est affirmer l'évident. La réciproque reste pourtant vraie aussi. Les mêmes éléments soumis à des ordres différents peuvent acquérir des statuts très divers. Pour rester dans le domaine de la terminologie linguistique, suivons Rosolato dans une classification possible de ces ordres qu'il nous propose, en laissant de côté le problème de certains systèmes de signes, comme par exemple le langage mathématique ou la notation dont se sert la logique. Pour partir du plus simple, commençons par mentionner le signal qui communique par sa présence ou son absence. Si nous prenons les exemples donnés par l'auteur que nous suivons, mot de passe, feu rouge, drapeau blanc, il est aisé de voir que le signal communique par une association arbitraire mais conventionnelle d'un signifiant à un signifié, le signifiant étant souvent pris dans un domaine non linguistique. À l'étage suivant, nous trouvons l'allégorie, qui se caractérise comme signe établi par l'usage. À noter d'abord que l'allégorie dépend déjà du signe que nous retrouverons à l'étage suivant. L'allégorie implique donc autre chose qu'elle-même et dépend d'un discours constitué à travers ses signes qu'elle déforme volontairement. De l'allégorie, je dirais qu'elle constitue un langage aberrant, et ceci pour deux raisons. L'allégorie place le signe constitué au niveau du signifiant. En lui assignant un nouveau signifié arbitraire et conventionnel. Nous représenterons donc l'allégorie par une structure à deux étages, et là, c'est le symbole là que j'ai mis au milieu. Je mets ce symbole pour vous montrer, je l'écris de cette façon, ce qui le fait ressembler, et en fait ce qui est très différent de ce que nous allons retrouver plus loin à travers le symbolique. Donc, nous représenterons donc l'allégorie par une structure à deux étages, grand S sur petit S1 sur un grand S2. Cet élargissement de l'allogarithme saussurien ne devrait pas nous surprendre. En fait, il ressemble à l'allogarithme saussurien tel que Lacan nous a appris à l'écrire et tel que ses élèves l'ont systématisé, si on tient compte du travail de la métaphore sur le signifiant. Notons toutefois que dans l'allégorie, c'est le signifié qui est dédoublé plutôt que le signifiant. Nous pourrions traduire cette différence en disant que l'allégorie fige le mouvement du sens dans un arbitraire préétabli et découle d'un nominalisme qui pétrifie dans le nom la fonction du verbe. L'allégorie est par excellence la réification du symbolique. Si pour un moment nous portons notre attention au signe, tel qu'on le retrouve dans le langage courant, la parole vide ou le langage didactique, et dont la fonction est de permettre un rapide et sûr décodage, mais non à une interprétation qui ressort d'une herméneutique et ne s'applique qu'au symbolique, nous pouvons voir tout l'intérêt méthodologique que l'allégorie nous offre, puisqu'en fait elle démontre l'impossibilité pour toute interprétation de se maintenir au niveau du signe. Le signe, en tant que signe, dit ce qu'il dit et ne dit rien d'autre que ce qu'il dit. Si l'obligation d'en parler se présente, il n'est possible de le faire que dans la mesure où le signe est support du symbolique, ou bien alors à partir d'une transformation en allégorique, ou encore d'une réduction du symbolique à l'allégorie qui n'en est que la caricature. J'insiste sur l'allégorique, car plusieurs tendances critiques en découlent et ne s'expliquent qu'à partir de cette fausse herméneutique. Soit qu'on se donne pour tâche de retrouver les conventions qui, à une période donnée, ont précisément figé le symbolique, et je vous rappelle que c'est tout le programme avoué d'une école d'histoire de l'art et d'un institut de recherche bien connu à Londres, soit alors qu'on recherche tous les prétextes possibles pour faire dire à un texte ce qu'il ne dit pas. Inutile d'ajouter que ces deux entreprises se font au nom d'une certaine objectivité qui est, paraît-il, ainsi atteinte. Le signe, nous l'avons défini. Il n'est pourtant pas inutile de faire certaines remarques sur ses emplois possibles. Le signe, nous l'avons dit en citant Rosolato, a l'avantage de permettre un rapide et sûr décodage et appartient par excellence à l'ordre de la communication. C'est donc dire qu'avec le signe, en dehors de l'erreur ou de la mécompréhension, significative certes, mais non plus au niveau du signe par rapport auquel il reste aberrant, fait correspondre à chaque signifiant un seul signifié, ou pour être plus exact, à toute chaîne signifiante assez étendue, une et seulement une chaîne signifiée. D'où il découle ce que j'avais dit, que l'interprétation ne peut jamais se maintenir au niveau du signe, que tout sous-ensemble ordonné d'un système de signes équivalent à un système de signes linguistiques, entre guillemets, communique, et c'est dans cette perspective que nous placerions que les travaux que Barthes a inaugurés sur la rhétorique de l'image et du costume. Troisièmement, qu'étant donné un ensemble de signes, il est possible de rechercher une matrice signifiante qui justifierait la présence simultanée, ordonnée ou pas, de la totalité des signes donnés. C'est dans cette perspective que nous verrions, la sociologie de la culture telle que la pratique Goldman, du moins pour des textes littéraires. La valeur de la méthode par rapport à la critique traditionnelle est évidente, puisqu'elle réussit à maintenir la valeur immanente du texte tout en la résolvant par rapport à la totalité des ensembles dans lesquels il se trouve placé. Non pas qu'une telle méthode ne relève elle-même de l'interprétation, mais en la médiatisant, ramène celle-ci au niveau du rapport du critique à l'idéologie qu'il emploie pour expliciter, nous dirions presque pour dire, le sens de la structure. D'où elle accède aussi au domaine du symbolique, on n'y échappe pas, mais par le biais d'un découpage indépendant de sa lecture. Nous arrivons donc au symbolique. Si nous avons choisi de l'aborder, pour ainsi dire, à l'envers, c'est pour mieux marquer sa fonction première et la dimension ambiguë qu'il confère à l'apparente univocité du signe, ambiguïté qui reste la pierre d'achoppement de toute sémantique qui peut encore croire à une relation monovalente du signifiant au signifié. Mais revenons au cadre des définitions que nous sommes assignées. Citons de nouveau Rosolato, le symbole est ce signe transmué qui comprend un réseau de relations entre signifiant et signifié eux-mêmes par ce fait plurivalent. C'est dire que le symbolique est la relation même qui fonde le signe, mais inversement que le symbolique apparaît greffé au signe qui le supporte mais ne l'est pas. C'est aussi dire que le signe linguistique reste toujours marqué d'une ambiguïté fondamentale par rapport au sens. Cette ambiguïté ne rend évidemment pas tout traitement sémantique impossible. On peut toujours, par exemple, développer des systèmes sémantiques en traitant le signe comme univalent. Le problème des machines à traduire relève de cet ordre. Certes, ces entreprises restent utiles et nécessaires et même d'un certain intérêt méthodologique considérable, si toutefois placées dans le contexte de leurs limites. À l'opposé, si le symbolique instaure une plurivalence entre signifiant et signifié, et s'il en découle une polysémie du signe, ceci ne signifie pas qu'on puisse dire tout à propos de n'importe quoi. Le symbolique est constitué donc par un certain nombre de relations entre signifiant et signifié, ou plus précisément, comme il a été déjà dit, il institue une fonction. Ce qui ne va d'ailleurs pas sans une certaine difficulté, car les deux ensembles sur lesquels joue la fonction ne sont pas donnés comme séparés au début. Ce qui est donné est un ensemble de couples, ordonnés certes, mais se présentant toujours d'une façon linéaire, d'où la difficulté inhérente à redécomposer d'une façon unique les éléments donnés. Pour clarifier et préciser ceci, qu'on nous permette le développement suivant. Nous pouvons admettre comme acquis que le symbolique opère et introduit la distorsion qui le trahit à travers deux procédés. En langage freudien, condensation et déplacement, en langage lacanien, métaphore et métonymie. Prenons la métaphore. Si la métaphore remplace un terme donné par un autre, le terme remplacé ne disparaît pas pour autant. Tout le monde connaît la systématisation de ce problème donnée par Laplanche et Leclerc. En partant de grand S sur petit s, si S est remplacé par esprit, esprime, nous n'avons pas simplement esprime sur S, mais esprime sur petit s, sur grande barre, grand S sur grand S. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette formule, mais vous faire remarquer simplement le problème du redoublement du signifiant qui, dans la linéarité du langage, apparaît comme donné ensemble. Si cette formule a l'avantage de permettre à ses auteurs de marquer une différence en l'inscrivant dans un niveau, il n'en reste pas moins vrai que le discours reste linéaire et qu'à reprendre le processus à l'envers implique un point fixe antérieur par rapport auquel se dessine le déploiement du signifiant. Et ce n'est qu'à partir de ce point que le symbolique instaure un savoir où le sujet y voit sa vérité. Nous pouvons donc voir comment un ensemble de relations premières définissent à travers la métaphore, la métonymie, l'ordre qui porte sur le signifiant, qui sédimente le signe en s'accrochant au signifié. Le sujet acquiert son statut par l'accession au signifiant, mais ce faisant se dédouble en son objet médiatisé par l'imaginaire. Imaginaire qui se situe entre le signifiant ordonné par le symbolique et le signe qui est son support ordinaire. Mais à partir de ce moment, ce sujet payera compris de sa fonction de ne jamais pouvoir se ressoudre. Concluons. Notre projet ici, dans cette brève communication, a été de soulever un certain nombre de problèmes en les maintenant simplement au niveau de considérations méthodologiques. De celle-ci découle la possibilité de penser ce qu'on appelle les sciences de l'homme comme unies dans leur nature. Il est possible de définir une matrice commune de laquelle la linguistique et l'anthropologie n'en sont que des aspects particuliers. Cette matrice se caractérise par le statut spécial de la relation du sujet à son objet. Car comme l'a dit Lacan, qu'on saisisse là la marque à ne pas manquer du structuralisme, il introduit dans toute science humaine, entre guillemets, qu'il conquiert, un mode très spécial du sujet, celui pour lequel nous ne trouvons d'indice topologique, le sujet est, si l'on peut dire, en exclusion interne à son objet. À partir de l'acquis de la psychanalyse moderne, il est donc possible d'entrevoir se dessiner à l'horizon une anthropologie générale. Le seul obstacle à son événement serait l'obsession d'un scientisme qui, pour cacher la pénurie de ses prémices, nous instituerait un réel fantasmatique pour recouvrir la vérité.
We have about half an hour for questions. I hope there will be some that will help us to thin out the very dense exposé of Mr. Donato.
I did indeed find the exposition rather dense, and I'm afraid that my question is not one of criticism, but and asking for certain clarification. Disciple of Husserl and Merleau-Ponty as I am, I was not entirely satisfied nor entirely comprehensive of the progress that you claim to make. of the nature of this progress. Now, it seems to me that you have said that in Merleau-Ponty's notion of subjectivity as in language, using language or as the system of signs for communication with the other, what he lacked was une symbolique, or l'imaginaire, that you have introduced with these... No.
Could I clarify that point?
Okay.
Saying that Merleau-Ponty, having begun from the phenomenological project,
yes.
If we take, but by the time we have reached the chapter on language in the Phenomenologie de la Perception, he states it himself that the position is reversed, that we start from intersubjectivity, and that the cogito is just a solipsistic comedy that we play, many of us, together. I'm badly translating, but quoting almost literally Merleau-Ponty.
Yes. Well, the nature of l'imaginaire, or this the symbolique that you wish to introduce into consciousness here in order to escape or to go beyond the privilege of reason or the privilege of the cogito that you find in Merleau-Ponty, it's about that I'd like to pose a question. It seems to me, in a sense, that you have almost gone back to Kant with the schemata of imagination being a necessary intermediary between thought and the structures of thought and experience. On the other hand, this imaginary it's not certain to me that this it's not clear to me whether this is a structure of the individual subject, whether somewhat like Jung, perhaps you would want to place a universal structure of symbolism or le symbolique in each individual consciousness, or whether it is something almost biological, physiological, or whether it is beyond consciousness, transcendent to consciousness in which consciousness participates. These are questions that I'd like to have clarified. I'm really honestly trying to understand structuralism. I think I understand a certain phenomenological approach to structuralism, but I really do not understand your reproach to Merleau-Ponty and in what way you go beyond that.
C'est un exposé très dense. En effet, ce que je voudrais vous poser, ce n'est pas une question, mais plutôt vous demander quelques clarifications. Je ne vois pas très bien, clairement, d'après votre exposé, les progrès effectués depuis Sartre et Merleau-Ponty. Je ne vois pas bien cette nature de l'imaginaire, du symbolique que vous semblez introduire dans la conscience. Est-ce que c'est une espèce de retour à Kant? Ou est-ce qu'il y aurait plutôt alors, comme chez Jung, une structuration de la subjectivité individuelle, quelque chose de symbolique ou de presque biologique, ou alors quelque chose de transcendant au-delà de la conscience? Je m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien un peu comprendre ce type de structuralisme qui m'est moins familier que l'approche phénoménologique.
Well, let me first say that on the contrary, I'm sorry if it came through like that. I did not mean it as a reproach to Merleau-Ponty, but just the contrary of having gone as far as he had gone. And the question I wanted to raise is, why did he not go any further? Now, the problem that I would state is thus, that to have a statut du sujet, it requires a predetermined order applied on the signifiant, and it is by this accession signifiant that on instaure le statut du sujet, if you want. On the other hand, this subject here has nothing to do, if you want, with consciousness or with the self as self. And that to reach the self as self, you have to pass through an imaginary dimension. But this imaginary dimension is mediated by the other, and this mediation by the other constitutes the intermediary mediation by which the subject, if you want, at that stage becomes aware as subject. The question of the other is itself problematic, because the other has to be understood under its double function, one of an other big O, if you want, and an other small O, which a small O, a small A. which itself is connected at the other extreme of the imaginary axis. But to come back to Merleau-Ponty, if you take a chapter on language, or I'll put the problem in a different fashion. If Merleau-Ponty reaches the level of language, or if he says in the other chapter on the body, in the Phenomenologie de la Perception, that all the comportements are comportements signifiants. The question is, could be phrased in the following fashion: with what categories is the signifiant element of the structure to be read? Within the perspective in which he places himself, there is no possible answer given to it. And the reason why there isn't a possible answer given to it at that level, it's because through the phenomenological projet, there is a desire of maintaining, to me at least, in my reading, the primacy of consciousness. The primacy of consciousness in identifying the self with the subject that operates precisely at the symbolic order. To give one concrete example. If you take a subject that is, if you take an individual which is being studied in the psychoanalytical context, you can study the function of subject that he plays at the symbolic level, which is going to be different than obviously the perception or the apperception that he has of himself as such. And the question of being able to treat of the status as subject at the level of the symbolic as separate from the small m that I have there on the axis. On the other hand, in my treatment of Lévi-Strauss, I was saying that small m is important for the function, for the totalizing effect upon the total structure in which the individual is placed to study his relationship. Le temps est court. Où est-ce que tu...
Ça va? Ils ont compris.
I should like to raise a thin voice across a series of gulfs from the Anglo-Saxon sensibility to the Gallic sensibility, from the scientist to the humanist, from the person who is permanently unresolved to the individual or group who is crystalline in its resolution of all issues. I would like simply to ask about a small statement which I find in this lucid English translation of your paper, and see what you can tell me about it, because I think it's fundamental to your enterprise and probably to that of structuralist thought. You say, let us note that what constitutes the particularity of the individual physical sciences depends not on what they study, but on what language they use to describe what they study. For it should be obvious to everybody that the time when one could define a discipline by that which it spoke about is bygone, and what constitutes the heart of modern preoccupation is the how to speak about it. Well, I would simply like to say, as a former and disabused methodologist of science, that I believe precisely the opposite of that assertion, insofar as it is an assertion, and would like to point to the fact that a sensitive empirical analysis of the languages of science will, I think, show the language of any given science is an exceedingly mixed language. I think that there has been a tendency in a great deal of modern thought to schematize many aspects of science, both its processes and its results, such as the linguistic structures to which it leads. And I would like to submit that even the language of physics is a quite heterogeneous enterprise including not only the artificial languages and controlled languages of mathematics and the empirical conceptualization characteristic of the given field of physics involved, but including elements of psychological language, elements of sociological language, elements of the natural language, and so on. I would like to point to the genetic circumstance that all scientific languages are, of course, differentiations from the natural language, often very remote and highly developed differentiations in respect to specific purposes. I should say that on the basis of an empirical analysis of the nature of scientific languages and the methods of science, one can only feel that the differences between scientists are, in fact, differences in interest with respect to objects of inquiry. This may be spelled out in terms of levels of organization. This may be spelled out with respect to differential predictive aims. This may be spelled out with respect to simply different substantive problematic contexts. I think that as one ascends the scale of the sciences, if ascension is at all meaningful in this connection, which it isn't particularly, but if one looks into other sciences, the social sciences, the psychological sciences, and so on, one gets even more of a picture of asystematicity, so far as the nature of the languages are involved, and even more a picture of heterogeneity of types of expression within these languages. I think one of the extraordinary, shall we say, delusions of modern thought is a certain kind of purism which tries to see sciences and, in fact, various disciplines, many of which have come to their problems adventitiously on the basis of a quite unsystematic historical process of curiosity, inquiry, and so on, is to see such disciplines in aseptic, schematic, pure, systematic terms. I think, therefore, that any enterprise which tries to elucidate or illuminate the relations between anthropology, for instance, psychoanalysis, and linguistics, as you apparently are trying to do, in terms of a systematic study of the interrelationships in levels of language, is hopelessly doomed to defeat. I see here, as a matter of fact, a rather interesting parallelism between certain foundation presuppositions of extreme forms of positivism, which can be reduced or vulgarized by stating them as coming down to the feeling that the world is organized as a logical layer cake, and that the languages which talk about the world are therefore organized as logical layer cakes or linguistic layer cakes. I don't think that this is the nature either of the world or of language. Thank you.
Criticism coming from outside the general framework of these discussions, that it better be translated and answered.
Yeah, do my best.
Je cite un passage de votre étude traduit en anglais, et je crois que l'essentiel, c'est de dire que ce qui est essentiel, donc l'essentiel n'est pas ce que les savants étudient, mais le langage étudié pour étudier, le langage utilisé pour l'étude. Non, corrigez-moi si ça vous paraît mauvais.
Oui, enfin, la référence est au texte qui est...
Bien, le problème me paraît être que dans le cas de travaux scientifiques, il n'y a pas de langage homogène et qu'il y a, vous avez peut-être, enfin, on a peut-être maintenant tendance à simplifier le langage de la science, à limite, enfin, en essayant de le rapporter à un modèle linguistique. En fait, si nous prenons la physique, par exemple, il s'agit d'une entreprise très hétérogène où sont mêlés les langages de la mathématique, des éléments de langage naturel, le psychologique, sociologique, etc. Et que tous les langages scientifiques se sont différenciés des langues naturelles dans des buts précis. Et peut-être que les différences essentielles entre les savants, ce sont beaucoup plus des différences d'intérêt par rapport à l'objet que les différences d'un langage qui n'est pas homogène. Le langage, si on regarde, Si on essaie de considérer les autres sciences, on voit qu'il y a un langage asystématique des expressions hétérogènes. Et on aurait peut-être tort d'essayer d'analyser les sciences en termes d'un système pur. Et lorsque vous essayez de clarifier ou de préciser les relations entre l'anthropologie, la linguistique, la psychanalyse, selon le niveau ou en termes d'une étude des niveaux du langage étudié, il me semble que votre entreprise est vouée à l'échec et qu'elle serait assez semblable à une forme extrême de positivisme qui a tendance à réduire le monde à un gâteau, comment on dit, un gâteau avec différentes couches, là. Et vous semblez impliquer que le langage qui parlerait ce monde ou qu'on utiliserait pour parler de ce monde serait lui aussi composé de différentes couches.
I'll try to answer to that. If I will indeed take a hierarchy of scientific language, and I think it's very much to the point. One is that if the notion of objectivity has to enter into the different sciences, the one science, if we can call it science, that I would consider as objective is mathematics, because it is absolutely impossible to distinguish what it talks about from what it talks about, from what it talks about to how it talks about it. It is all inclusive in one closed system. The two cannot be separated. But let us look at physics. Let's go down the line. If we take physics, since this is the question that was coming up before, physics as a science acquired status of science the moment it had a language to talk in, independently from the fact that it was commenting. We can say that people have been talking about gravity since the beginning of language, so to speak, every time they talked about something falling. On the other hand, the systematization of this is an historical problem. At the time when there was the possibility of talking, not necessarily in terms of the object, but in terms of the language itself. And I'll give three historical examples of this. The neutrino, since I mentioned it in here, was postulated to exist, not because anybody knew whether it existed or not, whether it was seen or not, but simply because of the internal necessity of the linguistic system itself. Later on, it turned out that it existed, but with quite a discrepancy between the two. In Dirac's equations, he had to postulate quite a few. He didn't postulate them. I mean, he did his equations, and through them, there appeared the necessity of a certain number of particles, which nobody yet had seen in nature. But all that is because of the necessity of the language itself. If I may quote an anecdote, a theoretical physicist that I knew, who sort of was so taken with the aesthetic aspect of the physical language, made the comment once that there is only four physicists that understand physics today in the whole world. Of course, we can go down the scale, and it does appear at one point. That there are certain sciences which are called sciences at the beginning, precisely by throwing together a certain number of objects, trying to see how they behave, with the hope of eventually being able to systematize them into a language. Once this thing is systematized, within those linguistic modes of expressions, they, in terms of certain function, ascribe precisely, we can talk about precisely in those sciences, in the advanced one, what the status of the subject is, given in terms of a certain number of functions. Now the question is, how far down we go before, and it isn't a question of going far down, but when you mention social sciences, there is the question of precisely what do we mean by sciences, and here is towards what I was leading, is that in those things, the status of subject precisely in that terms here is different than the one of the physical sciences.
Would you like to answer that one? We have time for two questions.
I'll just make a reply that I consider the answer quite beside the point. I mean, you're telling me precisely what I used to tell my students about 20 years ago. I think that there is, on the basis of really, I think, a revolution that's taking place in thought about the nature of knowledge at the present time, because there are other people interested in the nature of knowledge besides structuralists, there has been quite a reassessment of the extremely thin schematisms, for instance, over the past 15 years that have tended to be accepted as an adequate description of science and of scientific method. And I think that in some sense the answer that you just gave me is a kind of, shall we say, primer-like rehash of exactly that kind of schematism which has come very much under question. I think that you will find that thoughtful physicists and thoughtful people who are in fact scientists have a far more differentiated and subtle and, shall we say, asystematic notion of the nature of their own enterprises than has been conveyed by what you said. Now, clearly there are subsystems within physics which are highly developed and so on. These correspond to theories, to specific theories. Even they are quite misrepresented as entirely univocal patterns according to the pattern of the, you know, hypothetical deductive system with a full and explicit statement of postulates and so on. There is usually a partly explicit and partly implicit embedding language connected with a theory, for instance, which makes what we call a theory in science a far more indeterminate communication than it usually tends to be thought of. Now, when you say that a friend of yours who was interested in the aesthetic basis on which physical concept formation and the resolution of physical problems often takes place tells you that there are only four physicists who understand physics, I know the kind of statement that you have in mind, and it's the kind of statement that I, too, would very much stress, except that you don't put it very carefully. There are clearly the problem of objectivity is a much more complex problem in physics, as in any science, than the way in which you tend to represent it, and the way in which many of the other speakers have, I think, been tending to represent this. Objectivity becomes a very, very complex issue, which I will not try to analyze at this phase. But I think there's more of a disposition for scientists to acknowledge a personal coefficient, an I coefficient, in all significant scientific statements. If you're worried about the problem of solipsism, worry about it. But this, in fact, is the actual case. If you are an empiricist and simply ask how science is practiced and what scientists are like as they practice sciences. In any given area of physics at any given time, there may be only two individuals who really, or in some cases only one individual, who really understands at any high order of sensitivity a given phenomena or system of phenomena which, with respect to which he may be entertaining creatively novel hypotheses. And the usual story as to the universalizability of the language community in a science is a terribly overrepresented kind of fiction. Scientific communication is, to be sure, an efficient kind of communication, but not a completely efficient kind of communication. In fact, it bears more of a similarity to the kind of thing that happens in discourse in the natural languages than it does to the picture of universal, univocal communication and so on that methodologists of science have tended to attribute it to science over large parts of the century and so on. Now, I appreciate the fact that the difficulties here are very, very ramified ones, and I can go on free associating for the next 2 hours, as I am sure you could, without coming any closer to resolution, but I do want to inform you that I reject utterly your picture of the nature of science as you've given it to me.
Perhaps there will be an occasion to take this debate up again.
I want to say just two things. One, the parallelism of the problem with the sciences was a minor part, first of all, what I said, and the problem. On the other hand, you take on the same level, if you want, the way the scientific language constitutes itself from the problem of the communication of that language. They may be intricated together. On the other hand, by nature they are different. In practice, they may appear together. But I want to ask you just one question: the problem of a unified theory, is it a problem of objectivity or a problem of language?
The problem of a unified theory of what?
A unified field theory.
A unified field theory?
To put quantum mechanics with relativity.
Is it a problem of language or a problem or an ontological problem? A problem
no.
that has ontological
significance? No, is it a problem to be resolved for the physicist in terms of the language of physics, or is it a preoccupation in terms of objectivity of what's going on around in the world?
I think it's both. I think it's absurd to reduce it to a problem of the language of physics. I don't know the context in which you asked the question. It seems to me that if you say, what does the physicist have in mind when he's working towards a unified field theory? Is he manipulating symbols and trying to see some superordinate set of hypotheses from which two different clusters of expressions can be deduced or something of this sort? Then he is approaching it as a problem of language. I suspect that most physicists do not operate in that way. I suspect that Einstein, when he was concerned with this problem, did not operate in that way, but was in some sense seeing beyond the symbols and so on towards a reality which he took seriously. And I think that the sense in which you look for a unified field theory has to do with always thinking about the relationship of implications, consequences of the symbols that you're concerned with for empirical states of affairs, for possible experiments, for experiments that with respect to experiments that have already been done, and so on and so on. And so you obviously have a world reference as well as a symbolic reference implicit here. I think bad scientists tend to look upon their theoretical efforts as manipulations of symbols. And the worst scientists of all are the people in social science and psychology, as over the past 30 years or so, who have completely evaded their subject matter and contracted completely into a kind of role-playing attempt to manipulate symbols in ways that seem to conform to the patterns of symbol manipulations given them by the much venerated physical sciences. And of course, they don't really understand what's happening in the physical sciences at all when they're doing this.
Stop that. Traduction.
Oui, en deux mots, alors j'espère ne rien déformer. En deux mots. Oui, c'était la réponse de M. Donato, que la seule science objective, ce sont les mathématiques, où l'objet et la langue qui le parle ne font qu'un, et que dans le cas de la physique, on peut dire que la physique est devenue science dès qu'il y a eu un langage pour en parler indépendamment du fait lui-même. C'est le cas, par exemple, du neutron qui a été postulé à partir d'une nécessité interne du système linguistique.
Du signe employé en physique.
Bon, corrigé, s'il vous plaît. Du signe employé en physique. Alors, M. Koch, c'est la réponse que j'aurais donnée à mes études, ou qu'on aurait donnée il y a 20 ans, c'est une schématisation. Et je suis sûr que tous les physiciens sérieux auraient une notion beaucoup plus subtile et asystématique de leur entreprise. Et que la théorie de la science est beaucoup plus indéterminée. Et en gros, en fait, que le problème de l'objectivité est beaucoup plus complexe. Et que on ne peut pas. Enfin, ce sont les mauvais savants, et non pas les autres, qui ont tendance à traiter de la science en termes du langage qui la parle.
I think we can stop that particular debate at this point. I'm sure there will be many other opportunities for you to engage it. Can we have just two questions? I know that Monsieur Hippolyte wants to ask a question, Monsieur Morazet, and then I'm afraid we have to end the session.
Que vous m'avez donné un peu le vertige. Vous m'avez donné le vertige comme à quelqu'un auquel on ferait revivre en un temps extrêmement court toute l'histoire de sa vie. Et pour vous, tout s'arrange. Pour moi, ça ne s'arrange pas dans la lenteur de l'histoire. C'est ainsi que vous avez parlé de gens que je connais très bien. Il y a pas seulement des liens d'amitié, dont l'un est mort trop tôt et auquel j'ai survécu, Sartre et Merleau-Ponty, puis vous êtes passé à Lévi-Strauss, que je connais également, à Lacan, qui n'a pas besoin d'être présenté, puisqu'il est là en personne. Et vous avez fait comme si tout cela aboutissait, avec quelques petits remplacements de formules, à quelque chose qui est parfaitement cohérent, qui va de soi, et où il n'y a pas de point de rupture. Eh bien, je crois malheureusement qu'il y en a. C'est-à-dire, je ne crois pas, je crois qu'à un certain moment, il y a eu, en particulier sur la notion d'inconscient, une sorte de tournant radical, et que la psychanalyse existentielle de Sartre ne s'accorde pas avec les conceptions de l'inconscient vers lesquelles nous allons maintenant. C'est cette perspective historique que je voudrais ajouter à ce que vous avez dit, car il semble que vous êtes allé, Sartre, Merleau-Ponty, Lacan, Lacan lui-même, il m'excusera de penser qu'il y a peut-être chez lui aussi des points de rupture et d'évolution. Il y a un Lacan 1, un Lacan 2, à un moment donné, un Lacan dont l'influence aujourd'hui est devenue très grande, mais il y a toute une histoire que nous avons parcourue, toute une épaisseur d'histoire. Et en particulier, Sartre, Merleau-Ponty, et puis ce qui vient ensuite sur la structure et sur la linguistique, ça n'est pas une suite où il suffit de faire un remplacement, de dire il manquait ceci. Non, il y a des ruptures. C'est tout. Je voulais simplement insister sur ces ruptures que j'évoquais avec quelqu'un hier soir, c'était peut-être avec vous, lorsqu'il voulait me ramener à la phénoménologie de Merleau-Ponty ou de Husserl. Il y a un problème du privilège du cogito. Il y a un problème du sujet. C'est en effet un problème, c'est le qui parle. Vous connaissez les vers fameux de Valéry. Souvent je me réveille en rêve et au lieu de dire qui pleure, sinon le vent là, seul avec diamants extrêmes, mais qui pleure, si proche de moi-même au moment de pleurer, j'entends qui parle au lieu de qui pleure. Et ce problème de qui parle, on n'y a pas répondu de la même façon à une certaine époque et à une autre. Il y a une rupture, une évolution dans ce problème. Je ne veux pas dire cette évolution, je l'ai moi-même vécue, j'y ai participé. Et c'est pour ça que je le rappelle ici, dans cette dimension historique, les choses ne se suivent pas de telle sorte qu'elles conduisent à quelque chose qui s'harmonise, s'intègre. Il y a eu une rupture et il y a un problème du sujet. Il me semble ne pas l'avoir assez vu dans ce que vous avez dit, avoir eu le vertige de la transformation sans apercevoir les ruptures nécessaires. C'est tout. Je voulais simplement rappeler ça.
Okay. Should that be translated? I must say you made me a little dizzy. It was like reliving my whole life in one instant. For you, everything seems to settle down all right, not for me. Sartre, Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Lacan, all of those, for you, would seem to come to a coherence taken for granted without any breaking points. But there have been breaking points. There has been a turning point upon the notion of unconscious. The psychoanalysis of Sartre cannot be reconciled with the present trends in present state of psychoanalysis. Even in Lacan, there have been various stages with breaking points. There is a whole story, not just things one after the other, but breaking points. Of course, there is a problem of the subject. Who speaks? I can't translate a quotation from Valéry in my prose. And it hasn't always been answered in the same way. I mean, this question of who is speaking, has not been answered the same way, but there's no harmony and so forth. And even in your report, I don't think one has seen clearly enough this problem of the subject.
Monsieur Morazet. Juste dire un mot pour préciser, on va plutôt confirmer ce que je disais hier, à propos des de grandes précautions qu'il faut prendre en matière du langage et d'affirmation scientifique. Quand vous dites que les mathématiques utilisent des signes qui, dans lesquels le signifiant et le signifié se confondent, je dis sont aussi proches que possible. Mais si j'écris 3 plus 1 de cette manière, mon signifié et mon signifiant s'identifient à condition que je compte des traits de craie. Si je compte autre chose que des traits de craie, j'ai déjà tout le problème du langage. Mais quand j'écris 3 plus 1 égale 4, tous les problèmes du langage sont posés. Et ces irrationnels que Hippolyte vous demandait de faire introduire, enfin ces ruptures, eh bien elles se réintroduisent à partir de ce moment-là dans toutes les conditions. Et ce ne sont pas seulement des irrationnels du langage, ce sont dans le langage des ruptures d'économie qui correspondent à des ruptures d'économie dans la réalité.
Just a word to confirm the cautiousness I stressed yesterday when dealing with language. When you speak in mathematics of signs where signified and signifier are one, I think it's all right if I write that's the top one. Of course, they are identical if you are just looking at at what I wrote with a piece of chalk, but actually not when you're considering the mathematical signs outside of this pure representation. There are ruptures, breaking points in language too.
Je dirais simplement qu'en fait, oui, justement, que les ruptures dont vous mentionnez, elles se sont produites, sont des ruptures que nous, qui n'avons pas connu tous ces gens de très près, nous avons dû justement les vivre aussi au niveau intellectuel, qu'à essayer d'unifier les choses, on n'y arrive peut-être pas, mais enfin, peut-être que quelqu'un doit bien s'y essayer, même au risque d'y échouer. Toutefois, je dirais, sans développer, c'est que qu'à partir, ça j'y crois et j'y tiens, qu'à partir des développements de la psychanalyse moderne, il est quand même possible de voir un système beaucoup plus unifié qu'il n'était possible de le voir il y a 20 ans. Pour en revenir à ceci, je vais simplement dire ceci, c'est que, étant donné que pour le mathématicien, 3 et 4, 3 et 1 font 4, mais 1 et 1 peut faire aussi 0, si le mathématicien sait ce que ce signe signifie, et lorsque vous voulez dire plus, ce n'est pas la même chose que l'opération chez le mathématicien.
Il est temps de continuer la discussion à l'heure dîner. Et en terminant, je voudrais remercier M. Donato de nous avoir fait une conférence qui a donné le vertige à M. Hippolyte.
Du langage, M. Donato, mais je crois que c'est parce que vous parlez.